bord de l'Airbus 18-19 du Tropical Café. Le commandant de bord, Didier France, et son équipage vous assurent un excellent divertissement. Veuillez attacher vos ceintures, on va décoller.
On y va! Grosse caisse! Pitos, Monda, elle est là!
Ah, c'est chaud, hein. Comme on dit toujours, tous les mardis à 7h, c'est toujours la belle ambiance de Tropical Air Mix qui commence une émission qui va sur tous les sujets. Et comme aujourd'hui encore, on dit, on va aller sur un autre sujet parce que Tropical Air Mix va partout et vous fait découvrir plein de choses. Donc, on aura notre invité qui va venir, qu'on va le présenter d'ici là dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va d'abord dire bonjour à mon cher chroniqueur et frère. Salut, Dave de Dubaï.
Bonsoir, France.
Comment va?
Un peu bien, ça va. Et toi?
Ça va, tu te sens mieux?
Je oui,
sentais que tu étais
bon.
Un peu fatigué.
C'est bon.
Ça va aller.
Ouais.
Mais écoute, Dave de Dubaï, aujourd'hui, on reçoit un invité hors norme. Un invité qui va venir et aujourd'hui on ne va pas parler forcément que de musique, mais on va développer l'actualité sportive. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben déjà il faut remarquer que non, il y a un lien, je dirais il y a une corrélation étroite entre la musique et le sport. Je te donne un exemple. Chaque fois que tu vois un sportif, il y a toujours un casque sous la tête.
Oui.
Tu vois, donc du coup ben, ça va de pair.
On a fait une émission sur la musicothérapie avec le Doc Wilson.
Oui, ouais.
Donc quelque part aussi, on se dit que ça permet aussi d'adoucir, de rendre
bien.
Les gens zen.
Très bien, de mieux te préparer, de mieux te concentrer. Voilà quoi.
Alors,
comme on dit, hein, la musique adoucit les nerfs.
Bah oui, tout voilà. À fait. Avant de le présenter, on va d'abord écouter un petit son pour mettre tous nos auditeurs dans l'ambiance de Tropical Air Mix. Un son que je n'ai plus passé depuis très longtemps pour vous faire plaisir et pour vous dire encore bonne année parce qu'aujourd'hui, on vous souhaite tout. L'argent, l'amour, le bonheur et tout ce que vous voulez. Écoutons donc ce petit son-là avant qu'on puisse venir avec notre invité et il va nous faire plaisir, j'en suis sûr. C'est clair. On est parti, on revient juste après.
Island Mix.
Surrender,
Embarquement immédiat pour de nouveaux horizons. N'attendez plus. Envolez-vous depuis l'aéroport de La Rochelle-Île-de-Ré.
Là, j'aime bien quand l'émission commence comme ça, parce que là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec notre invité qui nous a rejoint et ça va être du lourd. Dave de Dubaï, laisse-moi te présenter notre invité, spécialiste en sport et un grand homme. Salut, monsieur Boketsu Bonga Bonga, que j'appelle moi Ya Didi.
Salut, DJ Franck.
Comment va ?
Oh, ça va très très bien. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux et surtout à toi une bonne santé.
Bah, merci. De toute façon, lorsque nous, on a de bons invités, de beaux invités sur notre plateau, on est toujours en bonne santé. Et aujourd'hui, on te remercie de nous avoir rendu visite cette année parce qu'on préparait ça depuis l'année passée. Et tu es là aujourd'hui et c'est vraiment l'honneur que tu nous fais. C'est une joie, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va donc mettre un son musical pour mettre notre invité... Dans le bain. Monsieur Boketsu Bonga Bonga. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas commencer déjà de comment est-ce que je vous connais, mais vous êtes là pour nous parler sport. Sport en tant que tel. Monsieur Boketsu, Ya Didi.
Ouais.
Déjà, pourquoi Ya Didi ?
Didi, c'est mon petit nom, c'est mon pseudonyme.
D'accord.
Donc Didi fit quand même un très grand footballeur. Il a joué dans l'équipe du Brésil avec Pelé et Vava.
Et Garrincha.
Ouais, et Garrincha, tu vois, le collègue se rappelle très très bien.
Ouais.
Et comme moi, j'étais un très bon milieu défensif, on m'a surnommé Didi.
Alors, on va donc en venir. Ya Didi, c'est FC Rouen, c'est Dieppe, c'est Imana, c'est tout ça. Alors, si on peut, en quelques phrases, tu peux nous faire un parcours sportif de Ya Didi.
Okay. En quelque sorte, je vais essayer de résumer parce que moi, je suis athlète de haut niveau à mon pays d'origine, la République démocratique du Congo.
Oui.
Quand je dis athlète de haut niveau, c'est que je jouais en première division à Kinshasa. Mmh. Je suis champion de Kinshasa avec l'Union sportive Bilombé. Et dès là, j'ai été transféré au cercle sportif Imana qu'on appelle aujourd'hui DCMP, Daring Club Motema Pepe. Donc tous les gens qui jouent en première division sont des gens athlètes de haut niveau. Et j'ai quitté le Congo en 78, je me suis rendu au Gabon. J'ai joué au Gabon au FC 105, c'est l'équipe militaire de la République gabonaise. J'avais un contrat avec le Force Terrestre et Navale. Je jouais là-bas en tant que professionnel au Gabon. Je fus champion de Libreville en 79 avec le FC 105. Et dès là, je suis venu en France avec Robert Vico, qui était à l'époque entraîneur de l'équipe professeur de Rouen. Je suis resté au centre de formation. Je fais une année et puis j'ai été prêté à Dieppe.
D'accord.
Donc, je fais toute ma carrière sportif de footballeur ici en France et plus précisément en Normandie.
Et comment ça s'est passé donc l'arrivée de Ya Didi au FC Rouen ?
Je suis arrivé au FC Rouen parce que, au départ, quand je jouais au Gabon, dans les cadres de la coopération entre le Gabon et la France, il y a Robert Vico qui a été détaché là-bas pour entraîner l'équipe nationale du Gabon. Et comme lui, il était entraîneur national du Gabon, il voyait tous les bons éléments qui jouaient à Libreville.
Ouais.
Et quand il a fini son contrat, il est revenu ici en France, il a entraîné le FC Rouen qui jouait en deuxième division. Ils sont montés en première division l'année où moi je suis arrivé.
D'accord.
Et quand il est arrivé ici, il a entraîné le FC Rouen en deuxième division, ils sont montés en première division. Il a dit, bon, dans ces cas-là, je connais quelques bons joueurs que je vis en Afrique. Il m'a appelé et puis on a fait contact. Après, on s'est entretenu. Je me suis arrangé. Il a tout négocié et puis je suis venu à Rouen.
Alors, donc, il y a Didi, milieu défensif.
Ouais, milieu défensif et puis ailier excentré.
D'accord. Où tu te sentais le mieux
Je me sentais plus en forme quand je jouais en qualité de milieu récupérateur.
D'accord.
Comme tu as appelé tout à l'heure, milieu défensif, c'est pareil.
D'accord.
Quel est le lien que vous pouvez faire, vous, là, entre la musique et le sport, et disons, entre la musique et le football ?
Je crois que entre la musique et le football, il y a beaucoup de similitudes. Tout d'abord, il y a l'expression de joie. Le footballeur, quand il joue au football, l'objectif, c'est de marquer un but. Et quand tu marques un but, il y a ce qu'on appelle l'explosion de joie. Et l'explosion de joie, ça s'exprime par beaucoup de façons. Et quand vous êtes dans un stade, vous pouvez voir, il y a des gens qui ont de la sono, il y a des gens qui ont des vuvuzelas, là, il y a des gens qui ont de tam-tam. C'est une façon d'exprimer la joie. Et la musique, c'est la joie. Donc, compte tenu du fait que le football, la victoire est exprimée par la joie et que la musique, l'expression totale, c'est la joie, je dirais que la relation, elle est aussitôt faite.
Ben, tout à fait, hein, ça c'est sûr. Et je pense qu'on le voit même lorsqu'il y a l'explosion de joie, comment les gens vont danser sur le coin de corner. Hein, ça c'est sûr. On se rappelle de Roger Milla.
Très bien.
C'était en quelle Coupe du Monde déjà?
90.
Voilà, il va danser, il nous fait la petite danse qui aujourd'hui devient la marque déposée de tous les joueurs. Alors, il y a Didi.
Mais actuellement, je vais ajouter une chose là.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la République démocratique du Congo joue, il y a toujours les Fimbo.
J'ai préparé cette chanson-là pour
chicote.
Toi parce que
ouais. La personne qui est auteur-compositeur de cette chanson, la chicote, c'est un ami à moi, Félix Voisé.
Félix Voisé, quoi.
Je l'ai dans mon portable. Comment on appelle? C'est un ami à moi, Félix Voisé, quoi. Mm-hmm. Donc la relation, elle est faite entre la musique et puis le football. Hein. Il y a qu'à voir.
Bah écoute, pour te faire plaisir, on va donc écouter Fimbu de Félix Voisé, quoi. Et on revient juste après avec notre invité, Ya Didi.
Fimbo. Totia qui bamon a boloko, bobatika isale li amabi. Fimbo, bobasalamono kinobi. Chicote.
Nabongo, bolingwe belé. Nabongo, le maman salé belé. Mais c'est pour que le likambo na motote.
Il y a quelqu'un qui habite au-dessus du cercle de la terre.
Ah, ma kouta didi, eh. Akibandundu na zwa lumbemba. Ma kouta didi, eh. Brasa luanda pona lumbemba. Ma kouta didi, eh. Akimba bukele pona kamotote. Yangoli gambo na motote. Zabae.
Tikanzela, nazo ke nepe golia biloko na yote. Bozo kreye bangouteyaj ya pamba pamba na moka. Azande kaka fidèle na moninga na yo mobali. Okanisa te o pantalon o chemise ndi on repassa ki mabe.
Sopa sakani Fimbo, 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 Chicote. Et Chicote. Awa to sidé Fimbo, 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 Chicote. Et Chicote.
Bato a misala maboko to telema.
Ah. Ah, Félix Voisé, quoi. Comme on l'appelle, le grand parolier. Ça dit que ce mec-là, il a le verbe, comme on dit, hein, Dave de Dubaï. Il a la faculté de pouvoir transformer un mode de vie en parole.
C'est la force de Félix Voisé, quoi.
Ouais.
Surtout la force d'une musique générique, quoi.
Non, mais c'est vrai, et aujourd'hui, qu'on se le dise, hein, un grand écrivain, enfin, il a sorti son...
Oui.
Son livre qui va être vendu, commercialisé en France ici par Hachette. Voilà. Et en tout cas, de là où il est, on lui fait un petit coucou parce que c'est un très bon ami à Monsieur Boketou. Et
je viens de l'apprendre. Il n'a pas joué au foot là, Félix Wazika?
Non, Félix n'a pas joué au foot, mais Félix, c'est un ami de longue date.
Okay.
Au départ, c'était. Dans sa vraie fonction, c'est un parolier. Il a donné des chansons à beaucoup de gens. Wemba, il a donné à Papa Wemba, à Koffi Olomide. Et c'est un ami à moi de longue date parce qu'il avait des très très bonnes relations avec mes beaux-parents et puis on se voyait régulièrement. Et donc après, il a arrêté son travail de parolier et puis s'est lancé lui-même dans les compositions et il réussit très très bien.
Qui sait, peut-être que de par toi, on l'aura un jour sur le plateau de Tropical Air Mix.
Il a compris que non, on gagne plus d'argent en étant musicien qu'en étant parolier.
Tout à fait. Alors, donc
non, je ne manquerai pas de lui tenir informé dès qu'il sera de passage, qu'on l'invite ici.
On l'invitera, on s'amusera, on rigolera et puis...
J'ai une question pour lui, pourquoi cette barbe-là?
On aura beaucoup de questions pour lui le jour où il viendra. T'inquiète pas, on va se préparer en conséquence. Alors donc, Boketsu Bonga Bonga. Meilleur buteur 82-83. Alors explique-nous un peu cette année-là où tu sors meilleur buteur et comment tu te sens toi dans cette année parce que meilleur buteur, c'est pas chose facile.
Ça, c'est dans Dieppe.
À Évreux.
À Évreux. À Évreux. Ah,
okay. Donc, je suis arrivé à Évreux en 82, le vrai Athletic Club. À l'époque, il n'y avait pas qu'un seul club à Évreux, il y avait deux clubs. Il y avait le vrai Athletic Club en ville, et puis il y avait l'Amicale Laïque de la Madeleine à la Madeleine. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai signé un contrat à l'équipe de vrai Athletic Club. C'est ce qu'on appelle l'EAC. C'est la plus ancienne équipe d'Évreux. Il y a des joueurs comme Claude Leroy qui sont passés là-bas. Mmh. Il y a des joueurs comme Christophe Coquart qui joue en équipe de France, qui a joué avec moi à Évreux.
Mmh. Ah bon ouais. Oui, je connais très bien.
Non, Christophe Coquart, il a joué avec moi parce qu'à l'époque où moi je jouais à l'EAC, Christophe Coquart était junior. Et le premier match que Christophe a fait en senior, il a fait avec nous à Versailles. Okay. C'est là qu'il a commencé. Et comme c'est un jeune qui était très très bien, qui venait de Broglie, il a joué qu'une année avec nous à l'EAC et puis il est parti à Auxerre.
Oui.
Et puis après, il a fini en équipe de France. Quoi.
Oui.
Donc, j'ai joué une saison, ma première saison à l'EAC, je marquais 21 buts.
D'accord.
Et en marquant le 21 buts, j'ai fini meilleur buteur.
En jouant toujours défensif ou bien
non,
excentré?
Non, quand je suis arrivé, comment on appelle, à l'EAC, l'EAC joue en division d'honneur. Mm. Mais comme moi, j'avais déjà joué en tant qu'athlète de haut niveau, j'avais trouvé que, comment on appelle, les niveaux de la division d'honneur m'allaient bien. Ouais. Donc, je me suis déporté d'une place. D'accord. Donc, je suis passé des demi-défensifs.
Ah. Milieu offensif.
Mais c'était même l'avis de l'entraîneur. On avait un entraîneur, Jean-Pierre Stranic. Bon, je profite de l'occasion pour lui dire bonjour et lui présenter tous mes meilleurs voeux.
Ouais.
C'est lui qui m'a dit que, comment on appelle, comme tu es très très précis, puis tu as les gestes justes devant le but, vaut mieux que tu montes d'un cran. Et c'est Jean-Pierre Stranic qui a demandé à ce que je monte d'un cran et puis je jouais plus à avant-centre et puis 10.
D'accord. Dave de Debage, si tu...
C'est une question que j'ai posée pour toi, là. Pourquoi aujourd'hui on a choisi football?
Bah écoute, c'est une façon de diversifier déjà l'émission. Et puis je pense qu'on avait déjà parlé avec Boketsu Bonga Bonga de cette émission. Et je voulais vraiment le recevoir sur le plateau. Donc du coup, on va développer sur aussi l'événement qui arrive en janvier.
Et justement, je vais embrayer sur ce que vient de dire notre ami parce qu'il va dans le bon sens. Comme on l'a dit en début d'émission, le football et la musique va de pair.
Ouais,
donc je me rappelle d'un très très grand journaliste qui a été président de l'Union des journalistes africains, qui a été même ministre des sports au Congo, Lucien Chimpumpu. D'ailleurs, beaucoup d'Africains le reconnaîtront. Mmh. Il animait une très très grosse émission sur la radiodiffusion télévision nationale congolaise. De 15h à 18h, l'émission était intitulée « Sport et musique ».
D'accord.
Comme quoi la musique va de pair avec le football.
Oui, tout à fait.
N'importe quel grand joueur africain, tu verras, il a la musique dans le son. Tu prends George Weah, Drogba, Eto'o, ils sont Paul Emerick Aubameyang, ils ont tous la musique dans le son. Et ce sont des bons danseurs.
Oui, c'est sûr. Donc, monsieur Boketsu est sûrement bon danseur.
J'imagine, parce que quand tu viens de la RDC, tu aimes la musique et tu es un bon danseur. Ça, c'est dans le son.
Alors, donc, ce qui veut dire que tu as donc connu toute la génération donc, des Samba Brice, des...
Ils sont venus Gapi, après moi, parce que les Samba Brice et l'autre qui était gardien, parce que c'est tous des gardiens. Hein.
Ouais.
Samba était gardien et puis il y avait le jeune Lubaki.
Lubaki
donc, ouais. Ils sont plus jeunes que moi.
Ils sont plus jeunes, ouais.
Parce que moi, je suis de la génération d'avant. Parce que moi, je jouais au Congo aussi. Ils sont originaires.
On va le préciser, donc international de la RDC. Hein.
Je suis athlète de haut niveau, comment on appelle, en République démocratique du Congo. C'est mieux d'accord. De dire athlète de haut niveau. Je joue aussi au Congo. J'ai été joueur à Pointe-Noire au stade Mvulalia.
Oui.
Mais c'est vieux, c'était en 76.
D'accord.
J'ai joué au stade Mvulalia contre le Club Mokanda.
Oui.
Si ma mémoire est bonne, à Pointe-Noire.
Oui, oui.
Et les petits Lubaki et le Samba sont originaires du Congo et c'est quand même deux jeunes que j'apprécie beaucoup. Oui. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont dû faire des tests sur Evreux, mais ils ont fini par jouer à Passy.
D'accord.
Donc ils sont venus après moi. Cela veut dire que moi j'ai joué avant eux dans les années 80, mais ils sont arrivés vers les années 90.
Ah ouais. D'accord.
Donc mais c'est deux jeunes que je connais très très bien et qui d'ailleurs que j'apprécie beaucoup.
Ah ben écoute, on leur dit bonjour de là où ils sont parce que c'est nos frères et puis on est content de parler d'eux, surtout qu'on parle de sport aujourd'hui. Alors Boketsu Bonga Bonga. Après toute cette grosse carrière footballistique, éducateur sportif.
Je suis éducateur sportif de formation aussi parce que non seulement je jouais au football, mais pendant que je jouais au football, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur.
D'accord.
Je suis titulaire du tronc commun du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré et suis consultant sportif.
D'accord.
Ce qui fait que quand j'ai arrêté de jouer au football, j'ai entraîné. J'ai fini par entraîneur joueur parce que j'ai monté l'école de football de Cerquigny. Cerquigny, c'est une ville qui est à 30 km d'ici.
Ouais, ouais.
Et avec le maire de Cerquigny et certains dirigeants de Cerquigny, j'ai monté l'école de football de Cerquigny. Donc tout ce qui existe aujourd'hui à Cerquigny, je dirais que ce n'est pas, c'est pas à cause de moi, mais c'est un peu grâce
partie,
à moi
ouais.
Et en grande partie avec moi parce que Cerquigny, c'est une petite ville de 3-4 000 habitants. Mmh. Mais on a monté une équipe de football avec l'école de football et on est arrivé jusqu'en promotion d'honneur. Après là, j'ai laissé, je profite de l'occasion pour saluer quand même un de mes joueurs qui est maintenant journaliste à l'équipe, Damien Degor. Je ne sais pas si vous regardez souvent l'équipe.
Oui, bien sûr.
Et vous allez voir.
Oui, c'est lui qui anime l'émission L'équipe du soir.
L'équipe du soir. Damien Degor, un de mes joueurs, il était cadet. Donc quand j'ai monté l'école de football, il était parmi les jeunes pousses qui étaient à l'école de football. Donc je profite, comme on est dans l'émission, de lui faire un petit coucou et puis souhaiter une bonne année à ses parents.
Mais que devient l'école de football de Cerquigny de nos jours?
Non, l'école de football de Cerquigny tourne toujours. Hein. Ils ont fusionné avec l'équipe des Nassandres, compte tenu du fait que Nassandres est situé juste à côté. Ils se sont dit que ça ne sert à rien de faire concurrence. Ils ont fissionné. Ce qui fait maintenant, ça s'appelle Cerquigny-Nassandre.
Okay.
Et je vais aller peut-être là-bas au mois de mai parce que Damien Degor organise toujours des tournois où il invite l'équipe de Real de Madrid, Paris Saint-Germain, les grosses équipes cadets d'Europe.
Il y a Didi, c'est un gros carnet d'adresses. Avec toute la carrière que tu as eu à avoir, Boketsu Bonga Bonga ne passe pas inaperçu en fait.
Oh, c'est un peu. Comment je peux expliquer ça? Un peu une forme de reconnaissance. Mmh. Quand tu t'es toujours comporté intègrement dans les milieux sportifs, dans les milieux musicaux, je dirais plutôt dans les milieux culturels, il y a toujours un retour dans le bon sens.
D'accord.
Parce qu'en étant éducateur sportif ou en travaillant dans le milieu de la musique ou dans le milieu associatif, tu fais plus un travail de proximité. Ça te permet de rencontrer les gens des différentes cultures.
Ok.
Je peux poser une question?
Vas-y,
juste une question. Quand je vois les footballeurs d'aujourd'hui et le footballeur de votre époque, quelle est la différence? Disons-moi, quand je vous entends parler, quand je vois votre parcours, ben je dirais que non. Enfin, apparemment, il y a quelque chose qu'on peut vous envier. Vous n'avez pas que fait du football, apparemment. Vous avez fait autre chose.
Non, c'est dû au départ par mon éducation de base. Parce que moi, je pars du principe que dans toute société, l'élément moteur, c'est la famille. Et sans prétention, mon papa était journaliste. Et à l'époque coloniale, mon papa a fait des études de journalisme. Il a travaillé à la radio. Et moi, j'ai eu la chance de faire des études à l'époque où en Afrique, on faisait encore très très bien les études parce que je fais l'école primaire, l'école secondaire et je fais les humanités.
Okay.
J'ai eu ce qu'on appelle en Afrique les diplômes d'État, c'est-à-dire le baccalauréat.
Okay.
Donc, je dirais tout simplement qu'à notre époque, les parents privilégiaient plus l'école que le football. Okay. Or, au jour d'aujourd'hui, les parents ils s'aperçoivent quand même que un enfant périt sûr par toutes les voies. Un enfant périt sûr par la musique, un enfant périt sûr par le football, un enfant périt sûr par les études. Or, à notre époque, les parents ne misaient que sur l'école.
Tout à fait.
Oui, oui. Disons que j'ai voulu poser cette question parce que vous savez, de nos jours, quand vous prenez un joueur de football en Afrique, il n'a pas vraiment le niveau scolaire qu'il faut. Comme vous verrez, de plus, ils sont trompés par les agents parce qu'ils n'ont pas la base scolaire qu'il faut y avoir. Et quand ils arrivent ici en Europe, ben, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais vous, à vous entendre parler, votre expression, ben, je sens que non, vous avez eu la base que Mobutu a voulu vous donner.
Merci d'avance.
Avant qu'on puisse donc rentrer dans le vif du sujet, donc nous allons parler de la CHAN. Avant de parler de ça, juste une question à Boketsu. Quand aujourd'hui, en tant que ex-footballeur professionnel, quand vous voyez des sommes astronomiques qu'on dépense pour des gamins ou pour des joueurs actuels, est-ce que ça vous sidère ou aujourd'hui vous trouvez que c'est plus ou moins normal?
Nous, quand on jouait, comment on appelle, en Afrique, on était en quelque sorte de footballeurs professionnels au niveau de l'Afrique parce qu'on ne faisait que ça. Mais les retombées n'étaient pas les mêmes. Le football, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de marketing.
Ouais.
Autour d'un footballeur, il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de lui. Il y a la publicité, il y a le marketing, il y a la communication. Ajouté à cela, il y a les intérêts du joueur et les intérêts de club. Partant de ces principes, il y a toute une organisation qui se met autour. Et c'est cette organisation qui fait en sorte que tout est géré correctement.
D'accord.
Tout est dans l'organisation.
Et donc les sommes actuelles ne vous surprennent pas trop, c'est-à-dire que acheter un joueur 222 millions ou un jeune homme de 18 ans acheté à 180 millions, même s'il n'a rien prouvé, est-ce que ça passe inaperçu pour vous en tant qu'ex-joueur professionnel?
Non, ça ne peut pas passer inaperçu. Mais je me dis tout simplement que le monde évolue.
Tout à fait.
Les enjeux économiques ne sont plus les mêmes. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai été athlète de haut niveau chez moi. Les avantages, les enjeux n'étaient pas les mêmes qu'ici. Et au jour d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, tout est lié à l'organisation. Tout ce qui tourne autour du ballon rond. Parce qu'autour du ballon rond, il n'y a pas que le footballeur et l'entraîneur. Il y a le staff technique, il y a tout ce qui est lié à la préparation du joueur, à la préparation, comment on appelle, de l'équipe. Il y a ce qu'on appelle l'extra-sportif, c'est-à-dire tout ce qui va en dehors du football, c'est-à-dire le marketing, la communication, la publicité. Tout ça là, ça a un coût.
Tout à fait.
Et si tu t'additionnes ça bout à bout, ne soyez pas étonnés qu'on arrive à des sommes astronomiques.
On écoute donc la chanson de l'hymne officielle de la CAN féminine que Charlotte Dipanda nous a chanté. Et on revient pour rentrer dans le vif du sujet de la CHAN avec Boketsu.
Vibre au rythme des talents féminins. Oh oh oh, les rayons de l'aurore des talents féminins. Oh oh oh. Illumine désormais le gars de Guinée. Hey, hey, hey.
Bon séjour au canon.
Pour la CAN féminine et plus de fraternité.
Disappointing emptiness of its absence. Merci à la FIFA, merci à la CAF. La CAF féminine réaffirme les vertus de la femme combative. Les mérites infinis de la douce compagne de l'homme, source de vie, mère de l'humanité.
Ces lueurs font frémir les corps et les cœurs de ceux qui vivent le rêve. Et catharsis des matchs, ces rayons scintillent, scintillent de bonheur au Cameroun, pays de paix.
On revient donc sur le plateau avec Boketsu qui est notre invité. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses et c'est une très belle émission et j'en suis vraiment hyper satisfait. C'est vraiment, comme on dit, Tropical Air Mix, une émission qui va partout et qui permet à tout le monde de découvrir certaines choses.
Une question que je me posais à Boketsu par rapport à l'équipe, à l'école de football de Serkini. Je ne sais pas, est-ce qu'ici à Évreux, il y a une structure pareille qui existe? Ou bien, est-ce que vous ne travaillez pas en connexion avec ici à Évreux, puisque vous habitez maintenant à Évreux?
J'habite à Évreux, mais je vais t'apprendre quelque chose de bien. En France, l'une des meilleures écoles de football, c'est la meilleure école de football de la Madeleine. Parce qu'à la Madeleine, je peux t'avancer un argument de taille. Il y a eu de grands footballeurs qui sont sortis.
Je dirais trois.
Mandanda.
Ah, que celui-là, je n'ai pas compté. Moi, j'ai compté.
Mandanda, il vient Dembélé. De la Madeleine. Il y a Dembélé. Il y a.
Bodmer.
Il y a Bodmer. Tout ça là, on peut dire que.
Brice Samba,
l'enfant à Samba. Et tout ça là, ce sont des très très bons footballeurs. Bon, il y a aussi mon fils qui était qui a joué à la Madeleine, qui a joué au Havre, qui a joué à Caen.
Il s'appelle comment?
Boketsu Elton.
Ok.
Bon, je ne veux pas faire sa publicité, mais tout ça là, ça fait partie de la progéniture, comment on appelle, de la Madeleine. Tous ces jeunes là, les Samba, les Mandanda, les Mendy, les Dembélé, oui. Les Bodmer, ça fait la fierté de la Madeleine. Donc, la Madeleine, c'est l'une des meilleures écoles de football en France. Et moi, je suis éducateur là-bas pendant 4 ans. Je connais la spécificité de cette école de football.
On va donc rentrer donc dans le vif du sujet, donc dans la CHAN donc qui commence plus précisément le 12 janvier. Hein, on est donc là pour parler de ça. Mmh. Alors, déjà avant de parler, parce qu'on a un professionnel donc sportif avec nous, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre la CHAN et la CAN, Boketsu.
Salut, France. Là, tu rentres dans le vif du sujet.
Ouais.
Il y a une différenciation entre la CHAN et la CAN. Mais toutes ces deux compétitions sont organisées par la Confédération africaine de football.
Ouais.
La CHAN, c'est le championnat d'Afrique de nations organisé par la Confédération africaine de football où ne participent que les joueurs locaux.
D'accord.
C'est-à-dire les joueurs qui évoluent en Afrique.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle la CHAN. Ouais. Les détenteurs de cette coupe, c'est la République démocratique du Congo, mon pays d'origine, qui ne participent pas cette année à la CHAN au Maroc parce qu'ils ont été éliminés.
Apparemment, ils ont gagné ça 2 fois, je pense.
Tout à fait, avec l'entraîneur Florent Ibengue, que je profite de saluer. Mmh. C'est un ami.
Oui.
Je profite de saluer Florent Ibengue et puis Eugène Kabongo, l'ancien avant-centre de Lyon et puis du Matra Racing.
Mmh.
Donc, partant de ces principes, je vais expliquer ce que signifie la CHAN. Par contre, la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Coupe d'Afrique des Nations rassemble tous les joueurs amateurs et professionnels de chaque pays qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Confédération africaine de football. Et au cours de la CAN, les joueurs évoluant ici en Europe peuvent aller jouer dans leur pays d'origine.
D'accord. Donc aujourd'hui, qu'on le précise bien, c'est une compétition qui se fait à cheval avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cette année, c'est la CHAN et l'année prochaine, ça sera la CAN.
La CAN. Donc, il faut bien différencier la CHAN et la CAN.
D'accord. Mmh. Alors, donc, il y a combien de pays, donc, précisément, qui participent donc, à cette CHAN que nous allons découvrir donc, à partir du 12 janvier?
À partir du 12 janvier, c'est-à-dire la CHAN se déroulera au Maroc. Il y a quatre sites qui ont été retenus. Il y a le site de Casablanca, c'est-à-dire le complexe Mohamed V. Il y a le site de Marrakech. Il y a les sites d'Agadir et les sites d'Angers.
Déjà, à la base, ce n'était pas prévu que ça se passe au Maroc.
À la base, ce n'était pas prévu que ça se passe au Maroc. Ça devrait se passer au Kenya.
D'accord.
Mais les Kenyans n'ayant pas répondu en quelque sorte au cahier des charges de la Confédération africaine de football, ils ont dû désigner le Maroc. Mais il n'y avait pas que le Maroc qui s'était porté candidat. Il y avait aussi la Guinée équatoriale qui s'était portée candidat. Mais compte tenu du fait que la Guinée équatoriale avait organisé tout dernièrement la Coupe d'Afrique des Nations masculin et la Coupe d'Afrique des Nations féminine, la Confédération africaine a jugé
bon de donner au Maroc.
Mais il faut savoir qu'il y a quand même 16 équipes qualifiées. Hein. Ouais. Donc il y a l'Angola, il y a le Burkina Faso, il y a le Cameroun, il y a le Congo-Brazzaville dont tu es originaire, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée, il y a la Guinée équatoriale, il y a la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Maroc, le pays organisateur, et enfin, il y a la Namibie, le Nigeria, l'Ouganda, le Soudan et la Zambie.
D'accord. Et en tant que professionnel de football, est-ce que pour toi, tu as des favoris qui se détachent quand même pour cette succession donc à la RDC?
De mon côté, compte tenu des équipes qui sont en face et connaissant comment les préparations se font en Afrique et connaissant les passés de chaque équipe, je crois que, sans chercher à noyer le poisson, le Maroc en tant que pays organisateur, on peut déjà le pointer comme favori.
D'accord.
Mais il faut toujours mettre des outsiders. Vous connaissez bien que le Nigeria, c'est une très très grosse pointure au niveau du football africain. Oui. D'ailleurs, ils sont qualifiés pour issue 2018. Donc, de mon côté, je prendrai le Maroc et le Nigeria en favori. Par contre, j'ajouterai deux outsiders. J'ajouterai, comment on appelle, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et viendrait en dernier morceau, la Zambie.
Pas le Congo ?
Je ne prends pas les Congo dans face parce que je voulais être pragmatique et puis juste.
Justement, chez nous en Afrique, tu pourras remarquer, quand les préparations sont troquées, c'est là où nous sommes meilleurs, c'est là où nous gagnons. Ça a été le cas avec le Nigeria, le cas avec le Cameroun, le cas avec la RDC. Donc quand on s'y attend le moins, c'est là où l'équipe gagne.
Pour répondre quand même à votre question, je le vois quand même. Le Congo, c'est une très très bonne équipe. Je le vois au niveau du quart de finale. Parce qu'au niveau du quart de finale, comme il y a 16 équipes, en quart de finale, il y aura déjà 8 équipes.
Oui.
Donc je le vois parmi les 8. Mais dans les derniers carrés et la demi-finale et la finale, ça devient plus compliqué. C'est pour cela que je préfère privilégier le Maroc et le Nigeria.
Ils auront le Fimbo. Ah.
Le Fimbo, c'est pour tout le monde.
Dans la préparation de l'émission, donc Boketsu, tu m'as parlé d'un joueur particulier que tu, toi pour toi, est la star de cette chaîne.
Je parlais comment on appelle d'un joueur qui, si c'était comment on appelle la CAN.
Ouais.
Il aurait été, comment on appelle, la grande star.
La grande star.
Mais comme c'est la chaîne, ces joueurs, dommage, il ne participera pas, comment on appelle, il ne participera pas, comment on appelle, à la chaîne, parce que c'est un championnat réservé aux joueurs locaux.
D'accord.
Donc je pensais à Mohamed Salah, le buteur de Liverpool.
D'accord.
J'aurais aimé le voir, comment on appelle, encore une fois, parce qu'il a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde, il a été très très bon. Bon, dommage que les Africains pendant la CHAN n'auront pas l'occasion de le voir parce qu'il ne rentre pas dans les critères. Mais c'est un excellent, excellent joueur.
D'accord. Donc on parlait donc de cette CHAN là, donc qui se passe donc qui commence le 12 janvier. Alors, Dame de Dubaï, est-ce que tu peux... Pour moi, je trouve qu'elle n'est pas aussi médiatisée que la Coupe d'Afrique, bien que la Coupe d'Afrique soit plus grande, mais on n'entend pas trop parler de la CHAN, en fait.
Oui, tout à fait. Ben, pour une simple raison, que c'est réservé aux joueurs locaux. Quand tu n'as pas
un joueur comme Mohamed Salah qui va pour jouer Sané, du coup, les médias extérieurs ne s'intéressent pas.
Mais quand on se dit, c'est quand même un moyen aussi pour les Occidentaux de pouvoir découvrir de très grands talents, en fait, à la base.
Les équipes s'intéressent parce que tu vois, les équipes ont toujours des émetteurs, comme des émissaires. Ils vont envoyer. Mais au niveau média, du moment que ça ne rapporte pas plus de sous, ben, ils ne vont pas s'intéresser à ça.
D'accord. Alors, je reviens donc à Boketsu. Pourquoi le Congo démocratique donc, n'est pas qualifié ?
Le Congo démocratique... Tu sais, le football, ce n'est pas une science précise et concrète. C'est-à-dire, tu peux faire la préparation comme tu veux. Si les jours du match, tu n'es pas au top face à l'adversaire, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement et tactiquement... Tu ne peux pas gagner.
Oui, tout à fait.
Je crois que, sans pour autant sous-estimer les grands travaux faits par l'entraîneur Ibengué, je crois que les Congolais ont dormi un peu sur leur laurier après avoir remporté la dernière CHAN.
CHAN.
Ils croyaient peut-être que tout allait se faire tranquillement, comme une boîte à la poste, comme un courrier à la poste. De mon côté, je crois que c'était une erreur. Car en football, il faut se remettre quotidiennement en question.
Ouais, tout à fait.
Et c'est ce fait-là de se remettre quotidiennement en question qui permet de se transcender et faire la différence les 10 dimanches.
Moi, j'ai une question juste avant qu'on puisse... Donc, on va balancer un petit son avant de passer au troisième volet de notre émission, parce qu'il y a le côté aussi politique et sport qu'on va mettre en valeur. Mais aujourd'hui, allez, je vous pose la question. Le fétiche dans le football africain, toi qui as été sportif vraiment professionnel, promotionnel, est-ce qu'il existe ?
Là, on rentre vraiment dans un problème culturel. Mais moi, personnellement, je ne crois pas au fétiche dans le football. C'est quelque chose de psychologique. Je vais t'expliquer pourquoi.
Oui.
La première équipe composée uniquement de Noirs à avoir participé à la Coupe du Monde, c'était la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre.
Oui, oui. En 1974.
Ils ont été en Allemagne en 1974. Oui. Et les capitaines de cette équipe-là, qui a été à la Coupe du Monde, c'était mon capitaine quand je jouais dans Imana, Kidoum. On a joué ensemble, on a fait la Coupe d'Afrique ensemble. Donc, le premier capitaine de l'équipe nationale du Congo en 1974 à la Coupe du Monde, c'était mon capitaine quand je jouais à Kinshasa. Et c'était des gens qui s'étaient bien préparés. Si effectivement les fétiches existaient, avec tout ce qu'on fait en Afrique, ils n'auraient pas perdu 3-0 contre le Brésil.
3-0 ou bien 9-0?
Non, ils ont perdu 9-0, c'était contre la Yougoslavie. Et l'entraîneur de l'équipe nationale du Congo à l'époque, le Zaïre, c'était un Yougoslave, Blagoj Vidjinic. Ils ont pris 9-0 et puis l'Écosse 2-0. Quand tu fais 9, 2 et 3, ça te fait 14 buts
en 3 matchs.
Donc... Les fétiches, moi je crois plutôt que là on est plus dans des aspects psychologiques. Le football, c'est une préparation physique, mentale, technico-tactique et en quelque sorte les relations entre les staffs techniques et la confiance qu'ils donnent aux joueurs.
Et les fétiches dans la musique, parce que le plus souvent on entend que les grands musiciens, que ce soit en RDC, ont toujours des maisons closes, des gris-gris, qui font que donc, ils aient du succès dans ce qu'ils font. Qu'est-ce que est là, vous y croyez ou pas?
J'y crois pas. J'y crois pas, pourquoi? Parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, tout d'abord, il faut avoir les compétences et les talents. Les talents, c'est quelque chose d'important. Il se pourrait que chez nous, les Africains, parce qu'on ne va pas nier nos origines et puis nos cultures. Les gris-gris peuvent servir des supports ou d'un plus. Mais,
peut-être se blinder l'esprit.
Blinder l'esprit, comme dit l'animateur principal. Mais dans tout ce qu'on fait, il faut tout d'abord le talent et ensuite la compétence.
Bien sûr.
À partir du moment où tu as le talent, tu as la compétence, moi je crois que partout où tu as envie de passer, Si les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. La preuve, nos enfants qui évoluent ici, ils ont trouvé les meilleures conditions de travail. T'as vu tous les bons morceaux qui sortent.
Ah oui, tout à fait.
Ça aurait été en Afrique, qu'est-ce qu'on aurait dit?
Ouais, ils auraient touché quelque chose et qu'ils sont suivis par des marabouts. Tout à fait. Ça, c'est clair et net. On écoute un petit son pour souffler et on revient pour la dernière partie parce qu'effectivement, Boketsu, ici, l'émission passe tellement vite. On aimerait bien parler longtemps, mais il faut respecter le temps. Et là, on va passer un petit son pour revenir sur la dernière partie avec toi parce que c'est un plaisir que tu nous as fait. Et j'ose quand même venir sur la dernière partie parce qu'on sait où on va y aller. C'est parti et on revient juste après avec Patience Dabani, Magic System, X-Maleya et Bill Clinton. Ça, c'est Bill Clinton, originaire donc du Congo démocratique, pour faire honneur aussi à notre invité Boketsu qui est là avec nous et qui nous fait en tout cas une énorme joie, un grand plaisir. Donc, on va donc entamer donc notre dernière partie. Dave de Dubaï, je pense que tu avais une question pour Boketsu.
Ben, une question, j'ai fait un constat. C'est vrai que votre pays a des un grand pays. D'un point de vue sportif, d'un point de vue musical, vous êtes très très avancé. J'essaie de voir un peu les joueurs d'ici d'origine quinoise et les musiciens d'origine quinoise. Ils sont très nombreux. Quand je parle de joueurs, j'enlève Mandanda, je prends Lukaku, je prends Nkunku qui est au Paris Saint-Germain.
Matuidi.
Justement, et quand je prends les musiciens, je prends Youssoupha, Matt Games, il y a Hiro,
tout.
Black, et tout cela. Mais qu'est-ce qui fait la force de votre pays? Parce que culturellement, vous êtes très fort. Qu'est-ce qui fait la force? Et je dirais la pauvreté de votre pays.
Je crois personnellement que le Congo, c'est un État-nation. Le Congo, c'est un État-continent. Tu as dit la dimension du Congo. Le Congo fait quand même 2 400 000 km². C'est 4,5 fois la France. Et c'est cette diversité, comment on appelle, culturelle, qui fait en sorte que on retrouve des talents dans chaque compartiment culturel ou sportif. Ça, c'est mon analyse. Et je crois personnellement aussi que le Congo, à l'époque coloniale, c'était l'une des structures sur le plan culturel, c'est-à-dire sur le plan musical, qui était développée au niveau de l'Afrique centrale. Et au niveau de l'Afrique centrale, le Congo a toujours eu, comment on appelle, des grands musiciens. Quand je parle de Khaled Jeff, qui a joué avec des gens comme Manu Dibangu, Docteur Nico, Luambo Makiadi, tout ça, ce sont des gens qui ont préparé en quelque sorte les jeunes
à émerger.
Oui, on a l'impression que le talent, le relais se transmet facilement de génération en génération. Parce que quand vous parlez de vieux Franco, mais ça date. Mais jusqu'à présent, la musique kinoise, elle y avance, quoi.
On a Koffi Olomide qui est aussi
Fally Ipupa,
un ami. Fally Ipupa, c'est un jeune que je connais bien aussi. Donc, en quelque sorte, les talents se perpétuent.
Oui.
Je voulais donc changer, donc passer de l'autre côté, donc la reconversion, parce qu'aujourd'hui, monsieur Boketsu Bonga Bonga, grand fan de musique, grand sportif, mais aussi un grand homme sur la scène hébroïcienne. Alors, la reconversion, est-ce qu'aujourd'hui un sportif devient forcément un homme politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, on parle de
George Weah,
qui est devenu président de la République. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rapport? Est-ce que vous pensez que la reconversion est toujours bonne à ce niveau-là?
Je dirais personnellement que là, tu as parlé d'un sujet qui me touche beaucoup. Ce que vient de faire George Weah, je dirais tout simplement, ça suscite l'admiration et j'irais même au-delà, ça suscite le respect. Si j'ai dit le respect, tout simplement parce que on ne devient pas président de la République tous les jours. Mmh. Même le roi Pelé, qui a été meilleur footballeur du monde, il n'a fini que ministre.
Ouais.
Donc, devenir président de la République, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, il n'y a pas une école pour devenir président de la République. Mmh. Donc, ce qui est arrivé à George Weah, je dirais tout simplement que ça mérite du respect. Je crois que s'il est arrivé là, parce que c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un qui a un grand cœur.
Qui a œuvré pour son pays aussi.
Qui a œuvré pour son pays. C'est quelqu'un qui est issu des bidonvilles de Moronvia et qui a beaucoup aidé, comment on appelle, les jeunes issus des quartiers difficiles. Il a aidé son équipe nationale. Et ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est en quelque sorte que ce n'est qu'un retour du bâton, quoi. Donc, il récolte un peu ce qu'il a semé.
Mais est-ce que c'est facile de passer du sportif au politicien? Boketsu, tu as ce côté-là aussi qu'on connaît tous, hein, sur la ville hébreuxienne. C'est facile de se remettre dans un autre costume, en fait?
Il y a toujours une similitude parce que les hommes politiques font ce qu'on appelle un travail de proximité. Et quand tu es en matière de sport, tu fais aussi un travail de proximité parce que tu vas à la rencontre des gens que tu éduques et au-delà de jeunes que tu encadres, tu as aussi une relation avec les parents et les familles. Mmh. En politique, c'est un peu ça. Les hommes politiques, en quelque sorte, essayent de donner des réponses aux différentes questions qui se posent les gens qui sont soit dans les quartiers difficiles, soit les gens qui sont en recherche de solutions. Et c'est cette proximité qui fait en sorte que les liens entre la politique et le sport va de pair. Il y a aussi les intérêts et les enjeux, que je peux dire, les enjeux économiques.
Oui. Je veux un peu... Bon, moi, peut-être que je n'irai pas dans le même sens parce que ce n'est pas vraiment évident. de se reconvertir d'un sportif en Afrique. Évidemment, pourquoi? Parce que comme je lui ai posé la question, en Afrique, quand on fait le sport, on n'a pas un bon niveau. Donc du coup, il est très difficile de se reconvertir.
Pas forcément.
George Okong, dont nous parlons, après sa carrière professionnelle, il a dû faire des études politiques de droit pour être là où il est.
Ouais, il a été faire des formations aux États-Unis.
Il s'est donné les moyens. Mmh. Mais en Afrique, quand on joue au football, l'école, tu ne connais pas trop. Hein.
Mais en tout cas, aujourd'hui, je me joins à vous pour lui dire chapeau bas. Mmh. Chapeau. Il a quand même...
Encore, je pourrais te raconter une anecdote.
On n'aura pas beaucoup de temps.
Il est venu à Passy, hein.
Il a tenté quand même deux fois déjà. Mmh. Et il a raté, mais aujourd'hui, on est content de le voir là où il est. Et
Il y a trois personnes en Dieu.
Oui. C'est clair.
C'est incroyable. S'il y a quelqu'un qui aime la musique, toute la musique de Koffi Olomide.
Tout à fait.
En tout cas, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que l'émission d'après va juste commencer. Merci, Boketsu, d'être passé nous voir. Mmh. Et j'espère qu'on te reverra dès que tu pourras dans notre émission. Hein.
Mmh. Avec Wazé, quoi.
Pourquoi pas?
Dans les bagages.
Je profite aussi, comme on appelle, pour saluer un ami qui a joué avec moi à l'EAC, qui est en Australie, Dominique Garnier.
Ouais.
Donc, c'est un grand ami à moi. Il dira que j'ai suivi l'émission, mais tu m'as pas souhaité bonne année. Donc, je souhaite bonne année à Dominique Garnier.
Moi, je souhaite bonne année à ta famille, hein, que je connais très bien. Et comme je dis, j'espère qu'on te reverra dans l'émission, parce que c'était une très belle émission. Tu as appris plein de choses. Ouais. Aujourd'hui... chapeau bas à toi en tout cas.
Bonne année à Principe Actif.
Merci beaucoup. Et on se dit donc à mardi prochain. Bon, pas le mardi prochain, le mardi qui va suivre, avec la bombe caméra qui va nous faire encore des merveilles. On vous dit donc qu'on ne joue plus à la facilité. On vous laisse avec un son et puis on vous laisse le plateau à la prochaine émission. C'est parti et à mardi dans deux semaines.
Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillettes, des pleurs et de l'angoisse. La passion du foot t'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé.
Solida Samuel.